Rendez-vous.
Rendez-vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau.
Nouveau.
Ce soir.
Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous, c'est votre énervé de la soirée, toujours en deux temps et à deux vitesses. Je le rappelle, ça commence à 18h en podcast, avant le passage à l'antenne, 22h minuit. Première partie, elle est consacrée à l'actualité et à la musique live. Les deuxièmes heures, eh bien, c'est les archives extraordinaires de France Inter. Ce soir, l'actu, c'est banlieue, toujours périphérique. Merci pour le jeu de mots, Benoît Lagan.
Ouais, c'était un peu facile. Hein.
Très facile. Alors que le film Les Misérables compte plus d'un million d'entrées, on va se demander ce soir si le regard sur la banlieue a vraiment changé, comment dans les quartiers on observe le travail des médias ou des artistes, et puis où en est la politique de la ville en direction des quartiers plus d'un an et demi après l'annonce du plan banlieue de notre super président Emmanuel Macron, Benoît Lagan.
Et pour en parler, François Beaune, écrivain, co-auteur de la BD documentaire Dans ma ZUP qui vient de paraître chez au Nouvel Attila. David Farjon, auteur et metteur en scène de la pièce. Et c'est un sentiment qu'il faut déjà que nous combattions, je crois, qui est en tournée partout en France à partir de janvier 2020. Emmanuel Davier, journaliste médiatrice des antennes à Radio France, et vous êtes à l'origine du programme citoyen d'éducation aux médias Interclasse, c'était en 2015, et vous allez raconter cette expérience dans un livre à paraître début janvier, coédition ESF France Inter. Et nous serons au téléphone avec Manon Haute, documentariste et auteur d'un film présenté en tournée dans plusieurs cinémas en France, dont en Bretagne aujourd'hui, et du livre De cendres et de braises paru chez Anna Moza.
Sur le plan musical, ce soir, Manon Guilbeault, j'imagine une contre-programmation.
Ah oui, on va être vraiment à des kilomètres des sons urbains de la banlieue, c'est plutôt folk, intimiste, voire bucolique, qui s'appelle Pierce Faccini et il performe avec ses musiciennes à la fin de l'émission.
Et puis, autre temps, autre parole, ce sera le énervé la suite cette semaine. France Inter plus de Jacques Chancel, radioscopie avec ce soir à son micro Louise Weiss. Allez, le énervé, c'est parti.
France Inter, le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Trois semaines après la sortie du film Les Misérables, qui compte plus d'un million d'entrées, quelle représentation pour la banlieue dans les quartiers populaires? On en parle ce soir, en lien avec une belle actualité, une BD documentaire, un film documentaire, une pièce de théâtre, et puis la publication à venir d'un ouvrage consacré à Interclasse, donc le fameux programme d'éducation aux médias de France Inter. Mais d'abord, je voudrais revenir avec vous tous sur le succès des Misérables. Est-ce que tout le monde l'a vu dans Prix du jury à Cannes, représentant de la France aux Oscars, un million de spectateurs? Vous l'avez tous vu autour de la table, François?
Oui.
Beaune?
Oui, oui, je l'ai vu.
Ouais.
Oui.
Marjon?
Ouais. Ouais, je l'ai vu.
Ouais. Manon Haute, du côté de la Bretagne?
Oui, oui, aussi.
Ah ben, c'est... Et vous, Benoît Lagan?
Oui.
Et moi aussi.
Voilà.
C'est vrai. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce que raconte ce succès d'après vous?
Écoutez, puisque vous me regardez, Laurent.
Oui, je vous regarde.
Je vais commencer. Moi, j'ai trouvé que c'était un film très courageux et un film magistral. Qu'est-ce qu'il donne à voir de la banlieue? Il donne à voir le désœuvrement, qui, à mon avis, est le cancer de ces banlieues. Ça se passe en été, c'est très important de le dire. C'est pas durant l'année scolaire, ça se passe en été. On a des bandes d'enfants qui tournent en rond comme des lionceaux pourraient tourner en rond dans des cages. Et ce désœuvrement va donner lieu à l'ultra-violence.
François Beaune, qu'est-ce que ce film apporte de nouveau sur le regard qu'on peut porter aujourd'hui sur les banlieues?
Ouais, moi je trouve que c'est un beau film. Il raconte un peu, c'est sa majesté des mouches de banlieue, avec cette espèce d'utopie que, justement, les jeunes pourraient se révolter. Moi, je trouve que c'est un film très politique. Et c'est une utopie de gamins de banlieue qui imaginent comment on pourrait s'organiser, réellement. Et ça se passe pas vraiment comme ça, hein, la réalité. Mais le seul bémol que je pourrais mettre, mais ça fait partie peut-être de la discussion qu'on doit avoir ce soir, c'est comment on raconte la banlieue. Est-ce que c'est encore et toujours la même histoire de la BAC qu'on suit, alors dans tous les reportages TF1, ouais, M6, etc., on suit la BAC qui va courir après des Noirs et des Arabes. Et c'est encore une fois quand même l'histoire de ce film.
Mais c'est fait par des gens qui vivent
alors,
dans le quartier.
Bien
justement.
Sûr, bien sûr, mais on intègre aussi les... et puis on fait aussi ce qu'on nous demande. Mais l'Adjeli, il fait pas ça justement, il le transcende, il l'amène vers... Il y a un aspect mythologique qui est magnifique dans ce film, qui l'amène ailleurs. Mais
pour
il faut
autant,
qu'on se pose
le
la question
départ,
quand même de
c'est quand même cette histoire, c'est-à-dire la BAC qui court après.
Et quelle histoire on raconte quoi toujours, hein, quel imaginaire on propose. Je pense qu'on est tous responsables de l'imaginaire qu'on donne à voir.
Emmanuel Davier, au contact, vous, des jeunes rencontrés dans le cadre d'Interclasse depuis 4 ans, est-ce que justement ces questions-là de représentation au cinéma ou même médiatique, c'est des questions qu'ils vous apportent presque de front, comme ça, dès que vous les rencontrez au premier abord?
Est-ce qu'il y a une défiance par rapport, quand ils arrivent ici, donc à la Maison de la Radio, par rapport à France Inter, aux médias en général?
Mais la défiance à l'égard des médias, c'est ce qui a généré le programme. On a voulu créer Interclasse précisément pour aller vers ces jeunes, retisser un lien. Bon, l'expression, elle est un peu fourre-tout.
Galvaudée aujourd'hui, oui.
Complètement, parce
que... Il manque plus que le vivre ensemble et on y est.
Non, mais moi, le vivre ensemble, c'est... D'ailleurs, je le dis dans le livre, je n'aime pas du tout cette expression. Je la trouve totalement essorée dans tous les discours politiques. Mais retisser du lien, enfin, ce lien a-t-il jamais existé? C'est quand même la question. Vous me parlez de la défiance. Avant même de rencontrer les collégiens, on leur soumet un questionnaire que j'ai préparé dès la première année pour connaître précisément leur état d'esprit à l'égard des médias, à l'égard des journalistes, ce qu'ils en pensent. Et vraiment, les réponses sont absolument cinglantes.
C'est-à-dire, par exemple?
Mais c'est-à-dire qu'ils nous considèrent comme des poucaves, des manipulateurs, des menteurs. On est à la solde du gouvernement. On veut donner une image très dégradée de leur banlieue. Alors en cela, je rejoins un peu leur propos. C'est vrai que lorsqu'on peut voir des reportages à la télévision, puisque c'est l'essentiel de leur source d'information, notamment sur des chaînes d'infos en continu, l'image de la banlieue, elle passe à travers le fait divers, lorsque des voitures sont incendiées, lorsqu'il y a des trafics en bas des immeubles. Ce ne sont que les faits divers qui relatent la banlieue, alors qu'il y a d'autres réalités à dire d'elle. Donc évidemment, ils arrivent ici avec un sentiment de défiance très assumé, des paroles extrêmement décomplexées. Et dès la première prise de contact qui a lieu à Radio France et qui dure 7 heures, tout change. Tout change très rapidement et ce changement va évidemment s'établir au fil des semaines, puisque la spécificité d'Interclasse, c'est un programme sur le temps long. C'est vraiment son luxe, ça dure toute l'année scolaire. Donc une année scolaire, ça donne un travail de fond et à travers ce travail de fond, on fait quelque chose de très important, on leur donne à produire des reportages qui leur permettent de donner une autre image de l'endroit où ils vivent.
Par rapport à ces relations entre médias et la banlieue, ben c'est le sujet quand même de votre pièce, hein, David Farjon. La pièce est « Et c'est un sentiment qu'il faut déjà que nous combattions, je crois ». Au départ, l'élément déclencheur, c'était ça, de montrer la mauvaise image des banlieues ou une crise médiatique?
Disons que ça fait partie vraiment de l'enjeu de la compagnie depuis sa création. L'enjeu de la compagnie Légendes Urbaines depuis sa création, c'est de prendre l'objet banlieue comme un enjeu de représentation. Et chaque spectacle, c'est questionner une mise en récit différente de la banlieue. Et donc, c'est le troisième spectacle, et il était temps pour nous de se confronter à cette lecture-là.
Par le
journalisme, la mise en récit du journalisme de ces territoires-là. Et moi, je rejoins ce qui a été dit. Moi, ça fait 2 ans qu'on travaille à Mantes-la-Jolie dans un collège du Val-Fouré avec des collégiens autour de cette question-là. Et effectivement, la défiance à l'égard du journalisme et des journalistes est énorme. Elle est très grande.
Et qu'est-ce qu'elle cherche à montrer la pièce?
Ce que cherche à montrer la pièce, c'est... elle essaye de comprendre comment, depuis une quarantaine d'années environ, c'est constitué un mythe médiatique. Un mythe médiatique au sens barthien du terme. Et de voir comment il s'est constitué, ce mythe, et d'essayer d'aller chercher à la fois dans les conditions de production des producteurs d'informations et d'aller chercher également dans les contenus comment c'est fabriqué et d'essayer de piger ça et d'essayer aussi de le corréler. L'hypothèse qu'on pose, nous, c'est que il y a une bascule des représentations des banlieues en 81 avec l'été chaud des Minguettes. Qu'il y a quelque chose qui s'opère à ce moment-là et que ça s'opère au moment où la gauche vient d'arriver au pouvoir et qu'il y a un rapport à cet endroit-là. Alors, c'est pas la seule piste qu'on tire, on en tire plusieurs, mais en tout cas, il y a cette
hypothèse. Non, mais c'est intéressant quand même de poser, en effet, un élément de départ, Benoît.
Oui, et pour dire que dans la mise en scène, il y a un travail sur l'image aussi, et sur la façon dont le discours est représenté aussi sur le plateau. Manon Hoff, vous qui travaillez donc le documentaire, donc vous présentez...
Oui, elle est en off parce qu'elle n'est pas là, mais elle s'appelle Hoff.
C'est ça. Votre documentaire tourne un petit peu partout en France, donc vous le présentez en ce moment en Bretagne. Il est centré sur les muraux. Vous les avez accompagnés ce film d'un livre aussi qui est intitulé Voix et histoire d'une banlieue populaire. Votre point de départ, c'était d'abord revisiter l'histoire ouvrière de ces territoires. C'était ça le point d'entrée pour vous?
Ça a été un des points d'entrée. Parce qu'en en fait, donc effectivement, il y a un film et un livre. C'est un travail qui est issu aussi d'une recherche entre sciences sociales et cinéma. Je suis à la fois réalisatrice et chercheuse enseignante en sciences sociales et en cinéma, et je travaille donc sur la question en effet des quartiers populaires depuis un peu plus d'une dizaine d'années. Et à l'origine de tout ce travail donc de Cendre et de Braise, il y a eu en effet l'envie d'essayer de comprendre un territoire dans sa complexité. Et le comprendre dans sa complexité, c'était aussi essayer d'historiciser le regard. C'est-à-dire que très souvent, quand on parle des quartiers populaires, c'est dans une sorte de présent permanent, ce présent de l'actualité. On les représente d'ailleurs souvent détachés de leur histoire sociale, voire comme des lieux sans histoire. Or, il me semblait que pour repolitiser le regard, c'est vraiment fondamental de retisser tous ces liens, de revisiter l'histoire ouvrière de ces territoires, d'essayer d'y repenser la question sociale, c'est-à-dire aussi la question du travail. Qu'est-ce qui s'est transformé en termes de travail d'une génération à l'autre? Par exemple, les quartiers des Mureaux, c'est des quartiers qui, à l'origine, ont été construits pour loger les ouvriers de l'usine Renault à Flins, à quelques kilomètres de là. Donc c'est une ville qui a une histoire très forte, ouvrière, qui croise aussi l'histoire de l'immigration. Et d'une génération à l'autre, donc souvent les anciens, les pères ont travaillé chez Renault, mais pour les enfants qui grandissent aujourd'hui au Mureaux, c'est un autre contexte social, économique, politique. Et moi j'ai essayé d'un côté de faire un travail de recherche pour mettre en lumière vraiment cette histoire et raconter aussi bien entre guillemets, la grande histoire que les petites histoires des gens, c'est-à-dire de le faire au travers de beaucoup de récits de vie, d'un travail sur les archives, mais aussi beaucoup de portraits, de récits de vie d'anciens ouvriers de l'usine, de jeunes qui grandissent aujourd'hui dans ces quartiers. J'ai essayé de coupler ce travail d'histoire sociale avec ça fait écho à ce que disait David juste avant, un travail de quelque part de déconstruction aussi des représentations dominantes sur les quartiers populaires. Il me semblait que c'était important aussi d'essayer de comprendre comment les catégories se sont construites, la catégorie de quartier, la figure des jeunes des cités, et comment elles sont construites dans les médias, mais pas seulement aussi dans le champ académique, dans le champ artistique, pour essayer de mieux mesurer l'enjeu d'autres images, cet enjeu d'aller essayer aussi d'aller chercher d'autres voies issues de ces quartiers. Donc c'est un travail que j'ai appelé une sorte d'état des lieux, qui est dans le livre de Cendre et de Braise, c'est la face A du livre qui en rend compte, puisque c'est un livre à deux entrées, en fait deux faces. On peut le prendre dans un sens ou dans l'autre. Il y a une face qui s'appelle Voix et histoire d'une banlieue populaire, où on fait donc cet état des lieux. Et quand on le prend dans l'autre sens, c'est un livre qui s'appelle L'expérience d'un film, et qui revient sur l'expérience du film de Cendre et de Braise que j'ai tourné avec des habitants des Mureaux à l'issue de tout ce travail de recherche qui a duré plusieurs années, pendant lesquelles j'ai aussi habité un temps au Mureaux. Et à partir de là, on a essayé, avec les habitants, de réfléchir ensemble à qu'est-ce qu'on pourrait essayer de raconter de leur vie, de leur quartier. Et donc, c'est un film qui se compose par fragments. Chaque fragment, c'est une nouvelle rencontre, et on déambule comme ça à travers le territoire à la rencontre d'habitants qui partagent avec nous des paroles, parfois intimes, parfois politiques. Et voilà, c'est un film qui fait une sorte de portrait à la fois, je dirais, à la fois poétique et politique d'une banlieue ouvrière en mutation.
Eh bien, on va retourner en banlieue dans quelques instants. Tout de suite, je vous propose d'écouter Niska, c'est le monsieur sale du rap français. Il est originaire d'Evry dans l'Essonne et son expertise de la banlieue, il la donne dans Bâtiment.
Ils m'ont dénigré, c'est la putain de vérité. Gang, gang, là j'allume ma 8 dans le bâtiment. Je fume ma dope, ne joue pas les gros bras, tu vas te faire shooter gentiment. Hey, tu vas pas me la faire, on prend pas par les sentiments. Pour les gosses, je vais t'insulter poliment. Cougna maman,
façon, si ça finit mal, si ça va au poste, faudra pas dire que c'est moi. Faudra jamais dire mon nom. La guerre, c'est qu'un petit détail. Si on vient à toi, on liquidera les témoins. C'est qu'on liquidera tout. Ils m'ont dénigré, c'est la putain de vérité. Ils m'ont dénigré, c'est la putain de vérité.
Gang, on a fait le bis d'un bâtiment. On a compris le système très très rapidement. Ouais, rapidement. Après le rap, on ira peut-être au paradis si on se repentit. Ouais. Mais pour l'instant, on pêche ouais. À croire qu'on est maudit. Gang, on a perdu trop de temps. Non. Les gens nous ont mis trop de 10. Quête, pris pour des cons. Con. On a fini par capter le vice. Des fois, quand je fume, je repense à son cul. Je prends mon gamo, et je repars. La foire.
Gang, là j'allume ma weed dans le bâtiment. Je fume à deux. Ne joue pas les gros bras, tu vas te faire shooter gentiment. Et tu vas t'aider. Tu vas pas me la faire, on prend pas par les sentiments. Les sentiments. Pour les gosses, je vais t'insulter poliment. Cognon, maman. De toute façon, si ça finit mal, si ça va au poste, faudra pas dire que c'est moi. Faudra jamais dire mon nom. La guerre, c'est qu'un petit détail. Si on vient à toi, on liquidera les témoins.
J'aime quand je fais l'amour, quand je la sens sous mes biscottos. Je connais les rappeurs, la plupart, c'est des zigotos. Genre de garde à vue, la daronne va me chicoter. Du mauvais côté, je suis mal vu, faut pas me fréquenter.
Brigand, briganté.
Chérie, promis, demain j'arrête la bibi.
Mouvementé.
Y'a le tarpé qui dort près de l'oseille dans le cajibi.
C'est coffré.
Ils ont beau venir, façon j'ai mon alibi.
Obligé
de changer de décor, faut que je m'arrache en amibi.
Je peux pas changer les choses dans la rue, c'est la merde, y'a plus rien à faire. À la base, on est pauvre aujourd'hui, de ma chambre, j'ai la vue sur la mer.
J'ai la vue sur la mer.
J'ai caché la cagoule, j'ai sorti la chemise, j'ai fait tout pour lui plaire.
Oh my god.
J'ai sorti la capote, un peu trop en avance, elle a plus voulu le faire.
Voilà, t'as un gang, là j'allume ma weed dans le bâtiment.
Je fume à deux.
Ne joue pas les gros bras, tu vas te faire shooter gentiment.
Mais tu vas t'aider.
Tu vas pas me la faire, on prend pas par les sentiments.
Les sentiments.
Pour les gosses, je vais t'insulter poliment.
Cogne maman.
De toute façon, si ça finit mal, si ça va au poste, faudra pas dire que c'est moi.
Faudra jamais dire mon nom.
La guerre, c'est qu'un petit détail. Si on vient à toi, on liquidera les témoins.
C'est qu'on liquidera tout.
Ils m'ont dénigré, c'est la putain de vérité. Ils m'ont dénigré, c'est la putain de vérité. Ils m'ont dénigré, c'est la putain de vérité. Ils m'ont dénigré, c'est la putain de vérité.
Gang, là j'allume ma weed dans le bâtiment.
Là j'fume ma dope.
Ne joue pas les gros bras, tu vas te faire shooter gentiment.
Mais tu vas t'aider.
Tu vas pas me la faire, on prend pas par les sentiments.
Les sentiments.
Pour les gosses, j'vais t'insulter poliment.
Cognon maman.
De toute façon, si ça finit mal, si ça va au poste, faudra pas dire que c'est moi.
Faudra jamais dire mon nom.
La guerre, c'est qu'un petit détail. Si on vient à toi, on liquidera les témoins.
Qu'est-ce qui se passe, je me vois partout. J'oublie pas la thèse, elle m'a fait, moi je lui toi tout. On a fait la paire et maintenant on écrase tout. On a pas les mêmes, fiches de paye, je les déclasse tous.
Rendez-vous.
C'est ghetto là-bas. Des voitures, des détours, des motos.
Mais c'est ce qu'on aime nous là-bas. C'est ce qu'on préfère, nous, le bruit.
J'ai besoin de mon petit ghetto, j'ai besoin de voir les petits jouer là-bas au foot. J'aime bien de voir des motos et des voitures.
Laurent Goumard.
J'aime bien ce décor-là, moi. Il me plaît.
Sur France Inter.
Eh bien, il aime sa banlieue et pourquoi pas, c'est le sujet du Énervé ce soir pour en parler. Emmanuelle Davier, médiatrice à Radio France, et puis c'est celle qui a défendu ici Interclasse, l'écrivain François Beaune, le metteur en scène David Farjon, et au téléphone Manon Hotte, documentariste et l'auteur du film dont on vient d'entendre un extrait de Cendre et de Braise. Juste un mot Manon, justement, on vient d'entendre à l'instant votre témoin qui s'appelle Mao, c'est un extrait du film. La première fois que vous le filmez d'ailleurs, il ressent le besoin de vous dire très vite qu'il n'est pas un délinquant, un de ces jeunes à capuche.
Oui, c'est vrai que la première fois on tourne une séquence ensemble, alors qu'on se connaît déjà depuis un moment, puisque ça faisait plusieurs années moi que je travaillais au Muro, mais il se dit, puisqu'il y a un enregistrement caméra et que ça peut être entendu par d'autres gens, il se présente, il dit voilà, je m'appelle Mao, j'ai 30 ans, je travaille depuis que j'ai 18 ans, et je ne suis pas. Il y a un silence et il ajoute un petit peu de temps plus tard, et je ne suis pas un délinquant. Alors je suis surprise, qu'on se connaît bien, je me dis pourquoi il a besoin de dire ça à ce moment-là. Donc je lui demande et il me dit parce que qu'on le veuille ou non, il me répond parce que qu'on le veuille ou non, c'est comme ça qu'on est perçu. En fait, ce qu'il veut dire à ce moment-là, c'est qu'effectivement, c'est pour lui, comme pour d'ailleurs beaucoup d'autres habitants des Muros, il doit au quotidien se battre aussi avec des images dominantes, les représentations des quartiers populaires, et notamment avec cette figure de jeune de cité qui, en fait, concerne une minorité de jeunes, quand on parle
Une minorité de jeunes, mais dont on parle toujours dans les médias, en fait, qui occupent les médias.
C'est 10% à peu près.
Voilà, 10%. Qui occupent, voilà, et qui tend à invisibiliser une majorité d'habitants, dont fait partie Mao. Et il est obligé, quand il se présente, il se sent obligé de se démarquer de cette figure.
De cette représentation. François Beaune, vous l'avez aussi vécu, ce genre de discours lors de votre installation à Chambéry-le-Haut pour votre BD.
C'est vrai qu'on a une réalité totalitaire, mais on en veut aux médias, mais les médias ils répondent à un besoin qui est un besoin d'actualité, de traiter l'événement, et c'est pour ça qu'on a le cinéma, le théâtre, la littérature qui nous amène vers du long terme et qui est justement à vocation à traiter de l'ordinaire, à traiter d'autres choses et nous montrer le monde autrement. Et moi j'ai adoré de Sandra Drebrez le documentaire de Manon, vraiment. Ouais.
En plus, sublime, noir et blanc.
Il y a ce besoin d'histoire, de raconter l'histoire. C'est pour ça que nous, on est parti avec Fabrice Thuriel, le dessinateur, et on
pour Dans ma Zup, ouais.
On s'est installé pour cette BD documentaire.
Ouais. Deux mois, ouais. Quel était l'élément déclencheur au départ quand vous partez là-bas? Quelle est l'idée pour vous?
Eh ben, c'était de se poser la question de qui sont les habitants d'une Zup ordinaire de France aujourd'hui. Il y a eu 197 ZUP qui ont été créés de 1958 à 1967. C'était le programme de la planification gaullienne pour pour créer de l'immobilier là où il y en avait vraiment beaucoup besoin. C'était lié à l'exode rural, à l'arrivée des pieds noirs, à l'après-guerre aussi. Il y avait eu beaucoup de destruction. Et on a essayé de montrer, de raconter à travers les histoires des habitants comment ça se passe. Les paysans maraîchers du coin c'est une ZUP ordinaire, elle ressemble un peu à toutes les ZUP, elle a rien d'exceptionnel. La ZUP de Montfermeil, les Bosquets, c'est quand même quelque chose, c'est particulier dans les ZUP de France, hein. Donc on a 13 000 habitants qui sont de Chambéry-le-Haut. C'était une zone de maraîchage qui a été récupérée, qui était à la ville. Les paysans ont été expropriés, les premiers scrapers ont mis en place. Et tout ça, ça nous a été raconté. Les premiers arrivants, les Italiens, beaucoup de gens du Nord, des gens des îles, des gens du Maghreb, etc., qui vivaient dans les bidonvilles autour de Chambéry, qui découvrent l'eau au robinet, etc., etc.
Oui, un certain confort, hein. Ils parlent même d'un certain confort.
Et vraiment, l'idée, c'était à partir de toutes les centaines d'histoires que les gens nous ont confiées, d'essayer de raconter dans la complexité, justement, sans essayer de traiter une actualité où cette réalité, un peu totalitaire qui nous est assénée en permanence, parce que c'est dans le conflit que les médias réagissent, et c'est finalement leur nature même, et donc de raconter autrement.
Juste géographiquement parlant, faut expliquer, Chambéry-le-Haut, c'est vraiment sur la colline au-dessus de Chambéry, c'est éloigné de quelques kilomètres, et donc du coup, symboliquement, il y a quelque chose comme si c'était un autre Chambéry, une autre ville à côté, donc il y a vraiment les dimensions de périphérie quand même. Hein.
Ah ben c'est la cité, c'est le bastion. Moi quand j'ai dit je vais vivre à Chambéry-le-Haut pendant 2 mois, les gens ils avaient peur pour moi. C'est complètement délirant, c'est ça aussi qui... Il y a Mohamed Slim qui dit dans le documentaire, dans cette BD, qui dit on parle beaucoup d'intégration, tout le monde nous parle d'intégration tout le temps, mais il y a une chose que les gens devraient intégrer, c'est qu'on est français. Yacine Bellatar, il l'a dit très bien récemment, il l'a dit dans Libération, il a dit avant de légaliser le cannabis en France, peut-être il faudrait qu'on légalise les Arabes. Et je trouve c'est juste quoi, ouais. Dans la mythologie et dans les représentations, dans les imaginaires sur la banlieue, comment on peut vivre avec la banlieue qui est finalement pas si différente que le centre-ville en vrai, si on comprend pas que les gens qui sont en banlieue, ils sont français
au même titre que
même les femmes voilées, que tous les Français. Les femmes voilées sont françaises, je le répète, les femmes voilées sont françaises.
Alors, ce qui est intéressant, tout à l'heure, David Farjan, vous donniez une date à peu près les années 80 pour le changement de regard des médias sur les banlieues. Et vous, c'est un de vos témoins qui s'appelle Farid et qui lui donne une date aussi pour le changement des politiques dans leur regard sur la banlieue. Et il parle de 95 au moment où il y a une sorte de discours décomplexé raciste de la part des politiques. François Beaune.
Ouais, c'était. Bah, alors, il y a différents moments historiques. Hein, je suis d'accord avec David.
C'est le bruit et l'odeur.
Début 80,
de Chirac.
La marche des beurs. Ouais. Il y a eu la revendication des jeunes de deuxième, troisième génération qui avaient plus envie d'être obéissants comme leurs parents, quoi. Qui avaient plus envie de baisser la tête et d'être soumis. Qui avaient le droit à part entière d'être français. Et d'ailleurs, ils sont étonnés aujourd'hui de se rendre compte qu'ils ne le sont pas encore. Et on en est encore là en France. Il y a un vrai enjeu, c'est de faire entrer dans l'imaginaire commun, encore maintenant, quoi. On en est encore là, les Arabes, les Noirs, les gens... je regardais un documentaire récemment sur l'émigration portugaise, l'exil 1,5 million de Portugais dans les années 60, qui quittent, pour des raisons de misère, la dictature de Salazar. Ça a totalement disparu de notre imaginaire, ça s'est fondu, et aujourd'hui, on a encore à faire un travail pour raconter autrement, moi il me semble, à la fois les banlieues et qui compose le peuple français, afin qu'on fasse société, quoi.
Mais David Farjon, la date de 95, avec là, tout à l'heure on parlait de la défiance vers les médias, la défiance vers les politiques, et notamment, alors Sarko c'est le Karcher, Chirac c'est le bruit et l'odeur, c'est aussi une date que vous notez comme d'un twist à un moment donné dans le regard des habitants de banlieue envers les politiques, une sorte de défiance là pour le coup vers les politiques.
Alors, moi, parler au nom des habitants de banlieue, ça va être un peu compliqué. Moi, en 95, j'avais 14 ans.
Qu'est-ce que j'aimerais pouvoir dire cette phrase? C'est la plus belle phrase que j'ai entendue, c'est aujourd'hui.
Merci. En revanche, pour ce qui occupe le sujet du spectacle, à savoir la représentation médiatique, je pense que la fin des années 90 est une date importante également, parce que ça fait un peu moins de 10 ans que TF1 a été privatisé, que la production de l'information, de comment sont réagencées les rédactions, la place des informations générales au cœur des rédactions, la place du fait divers, donc la course à l'audience... Là, on assiste à ce moment-là à une accélération de la course aux faits divers et du coup un regard qui va aller s'accentuer et avec un prisme particulier sur les quartiers populaires de ce regard-là et qui va se transmettre ensuite au service public.
Ensuite au service public.
Il y a quand même
Emmanuel Davier, défenseur du service public ici sur France Inter.
Évidemment, ça je le défendrai absolument.
Mordicus.
Ad vitam aeternam. Non mais ce que je voudrais, pour compléter le propos de tous les intervenants, je trouve qu'avec ces représentations archétypales et globalisantes qui sont étayées par les discours médiatiques, eh bien les collégiens et les lycéens d'interclasse, on connaît bien, ils ont intériorisé cette stigmatisation.
Tout à fait.
Et ça c'est vraiment dramatique. Et là où je ne rejoins pas du tout François Beaune, c'est que quand il dit ils sont français, évidemment ils sont français, mais ils ne se sentent pas du tout intégrés à la société. Et ça, ils nous le disent très très clairement.
Non, mais ils se sentent français.
Ouais.
Alors ça.
En tout cas, pour avoir eu des échanges.
Encore
oui,
une
mais
fois,
alors je vous invite à écouter vraiment les émissions d'Interclasse parce que nombre d'entre eux disent exactement l'inverse.
Après, moi, je me suis pas occupé des plus jeunes, qui sont aussi dans une révolte qui est différente à 14, 15 ans. Moi, j'ai été prof en collège, enfin, vacataire, et c'est pas le même titre.
Je
à partir
que...
de 20 ans, on commence à comprendre un peu mieux les choses.
Mais
on
d'ailleurs,
a plus de recul.
Alors, je suis absolument d'accord. D'ailleurs, on observe très bien que le discours des collégiens et des lycéens d'interclasse n'est pas le même. Qu'il y a une différence de maturité qui s'opère qu'on peut discerner assez rapidement dès les premières séances. En revanche, ce que je pense, et c'est vrai qu'on peut pas généraliser. Moi, ça me gêne ce discours sur la banlieue. Enfin, il y a rien. On peut pas généraliser ça. Chaque cas est singulier, chaque histoire. Ces enfants ont des parcours de vie vraiment heurtés. Ils sont confrontés. Alors, ce que montre très bien le film, Les Misérables, c'est cette misère protéiforme. Et nous, on la voit aussi en classe. La misère, elle est sociale, elle est culturelle, elle est langagière, elle est économique, elle est informationnelle. Et bon, là, je parle en tant que journaliste. C'est vrai qu'on ne leur apprend pas à s'informer, donc ils restent dans des biais cognitifs qui sont très prégnants. Et ce que je trouve tout à fait intéressant, on n'en a pas parlé, mais c'est l'école de cinéma qui a été créée à Montfermeil. Par le réalisateur des Misérables. Et je m'aperçois qu'en fait, il procède exactement comme on fait pour Interclasse. C'est-à-dire que lui, il veut mettre, il dit que la culture et l'éducation, c'est vraiment ce qu'il faut absolument développer dans ces quartiers. Et là, je le rejoins absolument. Et à travers cette école, il leur fait faire des choses concrètes. Il les forme au métier de la réalisation. Nous, on les forme pas au métier du journalisme, mais on leur met quand même le pied à l'étrier.
Tout à fait, avec les méthodes, ils en font ce qu'ils veulent. Tout à fait,
ouais. Et d'ailleurs, certains ont vraiment envie de devenir journalistes, mais c'est pas le but premier. Le but, c'est de leur faire découvrir un autre univers et de leur faire saisir ce que c'est qu'un travail concret de journaliste et qu'on n'est pas du tout manipulé comme ils semblent le croire. Ce que je veux dire par là, c'est que de faire réaliser des films ou des courts-métrages à des jeunes ou de leur faire réaliser du reportage, je trouve que c'est leur offrir des clés, leur mettre, voyez, un espoir entre les mains, vraiment.
Alors, elle, c'est l'idole absolue des ados du monde entier, qu'ils vivent en banlieue ou non, puisqu'il n'y a pas de raison. Son nom, Billie Eilish, sur France Inter.
I had a dream. I got everything I wanted. Not what you think. And if I'm being honest, it might have been a nightmare to anyone who might care. Thought I could fly, so I stepped off the golden. Nobody cried, nobody even noticed. I saw them standing right there. Kinda thought they might care. I had a dream. I got everything I wanted. But when I wake up, I see you with me. And you say, as long as I'm here, no one can hurt you. To scream, but my head was underwater. They called me weak, like I'm not just somebody's daughter. It could have been a nightmare, but it felt like they were right there. And it feels like yesterday was a year ago.
Everything I Wanted, signé Billie Eilish dans ce NRV, la programmation Il veut tout de Jean-Baptiste Audibert.
France Inter.
Bonjour, mesdemoiselles. Contrôle de police. Vous faites quoi là? On attend le bus.
Vous attendez le bus, là? Ça sent le shit, ça. Hein? Bon, il est où?
Vous avez pas le droit de me faire comme ça.
Comment ça, j'ai pas le droit? C'est l'état d'urgence, si je veux, je te mets un doigt dans le cul, t'as compris?
Mais c'est pas normal.
Ferme ta gueule, toi.
Vous avez pas le droit de faire ça.
Tu veux faire 48 heures?
Vous avez pas le droit de faire ça, vous avez pas le droit.
Eh, hey, c'est bon, c'est...
Ça va, je gère. Tu fais quoi, là?
Je vous filme, vous avez pas le droit de faire ça.
Arrête de filmer.
Non.
T'es contente, là? Petite conne, va. Allez, dégagez, là.
Le nouveau rendez-vous. Laurent Goumard.
Un extrait du film Les Misérables, plus d'un million d'entrées en 3 semaines, l'occasion pour nous de revenir entre autres hein, ce soir sur la politique de la ville en direction des quartiers populaires avec pour en parler Emmanuelle Davier, médiatrice à Radio France et qui a porté dans cette maison le projet d'Interclasse, le metteur en scène David Farjon, l'écrivain François Beaune et au téléphone Manon Haute qui a réalisé le film documentaire de Cendres et de Braise. Emmanuel Macron, on s'en souvient, a déclaré après avoir visionné le film qu'il avait été bouleversé. Il aurait demandé donc au gouvernement d'agir pour améliorer les conditions de vie en banlieue. C'est parfait, mais il y avait quand même un plan banlieue, non? Il n'y avait pas un plan banlieue?
Non, mais moi, je n'y crois pas du tout à cet indiscret du JDD. Je pense qu'effectivement...
Fake news, donc.
Non, mais non, non.
Qu'il ait été bouleversé, on peut le comprendre.
Qu'il ait été bouleversé.
Comment il a le temps d'aller au cinéma, de toute façon?
C'est le cinéma qui vient à lui. Vous n'avez rien compris, François Bonne.
Non, en fait, l'histoire. Non, Laurent Goumard.
Il arrive à faire tout ça.
Non, l'histoire. Non, mais l'histoire, c'est que la Gili l'a invité à Montfermeil, qu'il ne s'y est pas rendu, et que le réalisateur, donc, lui a envoyé le film en DVD, qu'il a vu, et on veut bien croire
qu'il l'a vu, bien sûr.
Et qu'il a été bouleversé,
comme tous les gens qui ont vu
le film. En revanche, la deuxième partie de l'indiscret, franchement, j'ai du mal à y croire. Quand on sait un petit peu comment ça fonctionne, le président de la République reçoit des notes du ministère de l'Intérieur, qui est quand même très au fait de ce qui se passe dans les quartiers. Donc, il n'a pas découvert, quelle naïveté de croire, et que ce soit relayé par la presse, de croire que le président de la République est informé de ce qui se passe dans les quartiers.
Par le cinéma.
Par le cinéma, et c'est quand même à 20 minutes de l'Élysée. Enfin, Saint-Denis, c'est tout près des Champs-Élysées.
Alors, ce plan banlieue, on en parle ou pas?
C'est vrai que le plan banlieue... Mais alors, bon, moi, je vais pas avoir un discours sur le plan banlieue. Ce que j'observe, c'est que on attend évidemment beaucoup des politiques, mais que dans ces banlieues, ils n'attendent plus tellement les politiques et qu'il y a une entraide très forte qui se met en place. D'ailleurs, on le voit bien dans le film avec les tontines. Les tontines, c'est aussi un sujet qui a été fait en reportage dans Interclasse il y a 3 ans. De quoi s'agit-il? Ce sont des femmes qui se réunissent et qui mettent un peu d'argent tout ensemble pour financer le projet de l'une d'entre elles. Et puis, chacune leur tour, elles arrivent à financer leur projet comme ça. C'est une forme de solidarité traditionnelle qui existe notamment en Côte d'Ivoire, qui est très développée en France dans ces quartiers. Et c'est ça qui se passe. C'est une entraide, une énergie. Et c'est le système de la débrouille. Enfin, moi, je ne sais pas, François Beaune, si vous l'avez ressenti, ça,
François
ce
Beaune
système.
Moi, je pense pas. Je pense que moi, ce que j'ai vu de tous les gens que j'ai rencontrés à Chambéry-le-Haut, donc cette banlieue ordinaire de France, c'était des gens qui réclamaient, qui avaient besoin justement de politique, de social. À partir des années 90, il n'y a plus eu d'argent pour l'organisation sociale, les centres sociaux, ça a baissé drastiquement. Il n'y a plus que de l'argent pour le bâti. Et il faut voir comment était organisé. Toutes nos banlieues arrivent à 50 ans. Elles ont toutes 50 ans, les banlieues. Qui sont aujourd'hui les habitants de les banlieues? C'est ça le bouquin qu'on voulait faire, qu'on a appelé Dans ma ZUP. Et elles s'organisaient autour du Parti communiste, qui organisait, par exemple, tout l'accueil, les enfants, tout l'été, etc. Ou alors des chrétiens de gauche. Et donc à Chambéry-le-Haut, il se trouve, les anciens de la JOC, etc. Ouais. C'était ça, parce que c'était la Savoie, donc historiquement, et c'est un peu les mêmes, qui étaient là, militants, sur le terrain, sur le territoire. Aujourd'hui, il n'y a plus d'argent.
Tout là, le tissu social et associatif a été complètement déminé.
Les 10 dernières années, ils ont dépensé 152 millions en bâti pour refaire la ZUP de Chambéry-le-Haut. Alors, ils ont refait les trottoirs, ils ont cassé des trucs, ils ont remis. Les lampadaires sont magnifiques. Ils n'ont pas réussi à mettre 1 million d'euros pour le social, pour tous les gens qui allaient travailler avec les gamins, avec les ados. Mohamed Slim, dont je parlais tout à l'heure, il fait un travail avec le Possi 33, il est sur le terrain, et il a ce groupe de hip-hop, et il travaille avec les gamins pour leur proposer des choses à faire. C'est comment on s'organise en société aussi sur les 13 000 habitants qui habitent la banlieue, dont une très petite minorité pose problème, qui fait qu'on fait société. Et la banlieue, elle souffre le plus de son stigmate et aussi du fait que ce stigmate fait que, eh bien, par exemple, il n'y a pas de commerce, il n'y a pas assez de commerce, et donc la société n'est pas, ne fonctionne pas de la même manière qu'en centre-ville.
Alors il y a un manque de moyens, mais est-ce que c'est toujours aussi la faute des politiques? Pas certain. On écoute un extrait du documentaire de Manon Haute. Nous sommes donc au Mureau et voilà ce que disent les jeunes habitants que vous avez filmés, Manon Haute, sur leur implication dans la vie citoyenne.
Moi, je ne comprends pas pourquoi c'est le ministre de l'Intérieur qui vient au Mureau de ramener le ministre de l'Emploi, par exemple.
Et pourquoi il est venu là?
Ben, il est venu parce qu'il voulait faire un défilé, quoi, c'était le
14. Pour dire qu'on va faire un nouveau commissariat, il y aura plus de répression. On veut du taf. Pour que tu vas arrêter, tu veux diminuer la délinquance, on commence le travail, ça va diminuer, c'est automatique.
C'est que de la politique. Le mec, il est venu ici pour, voilà, pour passer un message aux gens pour dire que je m'occupe des quartiers. Parce qu'apparemment, aux dernières élections, dans les quartiers, il n'y a pas eu trop de... Il n'y a pas eu beaucoup de votes dans la Bine Blanche et aux musiciens, par exemple. Donc après, lui, le maire, il voit ça et sa politique, il l'oriente dans les quartiers qui ont voté. Hein. Donc là, après, on voit ce qui se passe. Il se passe rien dans le quartier. Il n'a rien à gratter dans le quartier. Il n'y a pas de voix, il n'y a personne qui vote.
Ouais, c'est pour ça qu'il n'a pas peur.
Donc voilà, après, il tient pas compte de cette population-là. Après, c'est de notre faute un peu. Si on allait voter, si on allait faire nos cartes électorales.
Manon, c'est la faute aussi des citoyens dans les quartiers qui ne vont pas voter?
Alors, c'est ce que dit Abdou, un des jeunes qui est filmé dans le film, mais un petit peu plus tard...
Oui, tout de suite après, il dit, de toute façon, je ne me sens pas représenté par les partis. C'est ça, voilà.
De partis, voilà,
ouais. C'est juste la phrase d'après.
Voilà, la phrase d'après. Donc il dit ça, et moi je trouve quand même ce passage que vous avez choisi, qu'on retrouve donc dans le film et aussi dans le livre de Sandrine de Bresse, que c'est des paroles de jeunes qui ont un regard, je trouve, très confiant aussi, par certains aspects assez politisé sur la société, qui débattent entre eux de questions de politique, de questions liées au travail, ils parlent de la crise, ils parlent comme, en effet, l'extrait commence par « Pourquoi on nous envoie toujours le ministre de l'Intérieur au lieu de nous envoyer le ministre de l'Emploi ?» Et ça rejoint ce qui était dit juste avant sur la question de la politique de la ville. C'est vrai que depuis les années 2000, enfin depuis une trentaine d'années, les politiques de la ville, en direction donc des quartiers populaires, elles se sont de plus en plus resserrées sur deux axes. D'un côté, la lutte contre la délinquance, et de l'autre, le bâti, la rénovation urbaine avec de nombreuses démolitions. Et on a de plus en plus, par contre, laissé de côté ce qui devait faire au départ l'objet de cette politique, c'est-à-dire le développement social des quartiers, le soutien, s'appuyer sur les forces qui existent dans les quartiers, le soutien aux associations, le travail, le souci des habitants, en fait, pour aller de plus en plus vers des interventions soit centrées sur le bâti, soit dans une approche plutôt sécuritaire.
Mais par exemple, parmi les annonces d'Emmanuel Macron lors de la présentation de ce fameux plan banlieue dont vous ne vous n'y avez pas parlé, ni les uns ni les autres, il y a plus d'un an, il y avait quand même cette idée, c'était d'inciter les entreprises à recruter des candidats issus des quartiers. Ça, vous y croyez ou pas?
Bah pourquoi on n'y croirait pas?
Franchement,
ça marche. Déjà, il faudrait que ces jeunes aient envie de sortir des quartiers. Parce que lorsqu'on parle avec eux, je vous assure que l'enfermement géographique, il est bien inscrit également.
C'est ce que l'on voit aussi dans le film d'ailleurs. Ils aiment leur quartier, c'est quelque chose dont ils ne... Enfin, c'est vraiment...
Mais oui, parce qu'ils le maîtrisent. Ils y ont tous leurs repères.
Vous n'êtes pas d'accord, David Farjon?
Moi, en tout cas,
il y a une peur peut-être d'en sortir.
Les discours que je peux avoir sont plus nuancés que ça. Certains détestent l'endroit où ils vivent et ils ont envie de se barrer. Enfin, il y a vraiment des deux.
Hein. Mais il y a un paradoxe, c'est-à-dire que ces jeunes, et là encore, enfin, je suis très factuelle. Tout ce que je vous dis là, vous pouvez l'écouter dans les émissions. Donc. Ils disent à la fois, et notamment j'ai le souvenir d'un jeune de Grigny qui vraiment lançait un appel au secours en disant au ministre, mais venez voir notre ghetto. Donc la sémantique, elle est vraiment très forte. Venez voir votre ghetto. Et Et ils y sont attachés à cet endroit. Et non, je vous assure
ils
que
ils sont attachés à leur endroit, mais il faut imaginer que en banlieue, c'est un lieu de passage. On n'y reste pas forcément. C'est un lieu de refuge. C'est un lieu qui est pas cher où on peut se retrouver. Et aussi, on peut se retrouver entre gens qu'on connaît. On a l'aide des gens, les premiers qui sont arrivés, etc. Mais c'est un lieu qu'on a envie de fuir. C'est un lieu où on a envie d'aller ailleurs. Tous les gamins du bouquin dans Mazup, ils racontent comment ils s'imaginent avec un petit appart, leur copine, leur bagnole, mais en centre-ville ou ailleurs, dans une autre banlieue, parce que comme ça, ils peuvent être tranquilles, parce que il faut qu'ils sortent de la bande.
Et encore une fois, ce qui est important de préciser,
si tu restes dans la bande,
François, ce qui est important de préciser, c'est que moi, j'ai affaire à des jeunes qui ont entre 14 et 17 ans.
Ouais, ouais, moi, c'est.
Et donc, je pense que la maturité.
C'est 20 ans, moi.
Oui, mais ça,
c'est différent.
Non, c'est différent.
Ce qui est normal, hein. De toute façon, on évolue.
T'es pas dans la même révolte quand t'as 14, 17 ans. D'ailleurs, tu peux te dire, justement, de te sentir pas du tout français, par exemple. Alors que tu le sais très bien, au fond de toi, que tu es complètement à 100% français.
Et il y a de la provocation aussi.
C'est de la provocation.
Et je pense que c'est bien pour ça que je le redis, on ne peut pas dire la banlieue, les jeunes de banlieue, tout doit être nuancé selon l'âge et selon même l'endroit géographique. Chambéry, la Seine-Saint-Denis, les Mureaux, Grigny, Paris 19e, ce n'est pas pareil.
Et il y a un truc aussi, moi, je trouve, qui irrigue tout le long, toutes les histoires que j'ai pu glaner, c'est aussi l'humour. Cette espèce d'ironie de troisième degré sur nous-mêmes, sur comment on se moque de nous-mêmes en permanence. Et je trouve cet humour, cette autodérision à l'anglaise, un peu, moi, des banlieues que j'aime bien. Il y a un libraire qui disait, en parlant du bouquin, on dirait, parce qu'il y a le style du dessin de Fabrice Thurier qui ressemble un peu à du Sampé, il me disait, ça fait le petit Nicolas à la Zup, quoi. Mais il y a vraiment un truc comme ça de... C'est des histoires drôles aussi, comment ils racontent leur genèse, comment ils seront à faire de la maraude, à les chaparder, comment ils transforment un gymnase en piscine parce qu'ils n'ont pas de piscine sur la banlieue. Donc bon, à un moment donné, ils voient les vannes.
Et ils les ouvrent. Et ça sera le mot de la fin. C'est presque une métaphore de la situation.
Et d'ailleurs, c'est un écho au film.
C'est le plaisir aussi de ça, moi, je
trouve. C'est un écho au film. Ils n'ont pas de piscine et ils se baignent dans une piscine gonflable. Dans le film Les Misérables.
Ah bah c'est du Spike Lee aussi, je pense que c'est une touche.
Ouais. Ah bah c'est tout un dans le grand bas.
Merci. L'humour est important.
Merci à vous quatre. Tout de suite, on va rester... pas du tout, parce que c'est une contre-programmation musicale, comme chaque jour avec Marion Guilbeault. On n'arrive pas à la faire coïncider. Enfin, il y a quelque chose
qui me rebelle, moi.
Voilà, c'est ça.
C'est ça le lien.
C'est ça. All right, let's have a little
rumble at the Ritz tonight. Le nouveau rendez-vous sur France Inter.
Un trio à cordes, ce soir, Marion Guilbeault, vous ne vous refusez rien.
Contre-programmation, Laurent Goumard, comme d'habitude, voilà, avec Pierce Faccini. Alors, Pierce Faccini, on l'a découvert au début des années 2000. Il est italo-anglais, il est installé en France maintenant depuis longtemps. Il vit sur les contreforts des Cévennes et de là-bas, en pleine nature, il peint, il prend des photos et surtout, il joue un folk feutré, mélancolique, de toute beauté, totalement hors mode et totalement hors du temps numérique. Il a déjà publié 8 albums, il a travaillé avec Vincent Segal, Camille, Ben Harper, Ibrahim Malouf et bien d'autres. Pierce Faccini, c'est un jeu de guitare très épuré, très précis, un jeu porté par une voix douce, pleine, un chant libéré des lois de la pesanteur. Sa musique, elle est marquée par la sobriété, par l'artisanat, la spiritualité. C'est une pratique qui rappelle un peu celle de Leonard Cohen. C'est une musique qui permet l'évasion, le rêve. C'est une musique refuge. Alors, il a publié récemment sur son propre label une série de maxi vinyles qui met en avant des collaborations avec d'autres artistes. Il y avait un auteur napolitain, il y avait une chanteuse néo-zélandaise, un poète de Trinidad. Il y a toujours cette envie de métissage chez lui. Et là, il a repris le micro sur le dernier maxi de la série qui s'appelle « Hear My Voice ». Et on vient de débattre là pendant une heure de la représentation de la banlieue. Et moi, je me demandais, Pierce Faccini, dans quelle mesure votre environnement, ce petit village des Cévennes, influait sur votre musique ?
Je pense qu'il influe énormément. Et j'ai dit toujours que je pense que les chansons, elles existent déjà, en fait. Et c'est juste qu'un jour, elles nous tombent dans les mains. Et donc, je pense que ces chansons qui me tombent dans les mains, forcément, elles ont ce goût, ce parfum de la campagne, cette musique qu'on entend par la fenêtre, les oiseaux qui chantent.
Vous avez encore des oiseaux, vous avez de la chance, vous savez.
On essaye de garder aussi un habitat pour eux et de les accueillir un moment précieux de l'année, qui est juste un des trucs les plus beaux pour nous, c'est d'entendre le premier chant de Rossignol, parce qu'ils font leur nid dans les bois, vraiment juste à côté de notre fenêtre, et donc on a les rossignols qui nous bercent le printemps. Donc c'est sûr que c'est partout dans la musique que je fais.
Bon, on va écouter ça tout de suite, le rossignol Pierce Faccini dans le Énervé, c'est à vous.
Turning over words that read nowhere, picking up the signal of a distant roots never tied me down to the shallowest ground. Born into the year of who knows when, brought up on ways left way back then, searching for a way to snap and a trail to travel. What would it take for a dreamer to wake? It could have been you. Line after line, the code was all mine, but who's playing who? It could have been. To the core, cut me at the close. Synapse reeling when the zero glows. Looking for a number to be someone like me. Fingers to the stars before they sink. Palms upraised, trembling at the brink. Take me to the pole below. I got waves to roll. What will it take for a sleeper to wake? It's haunting you. Frame after frame, the lay of the game.
Pierce Faccini dans le nouveau rendez-vous subtilement accompagné par Maëva Lebert au violoncelle, Anne Gouverneur au violon. Pierce Fatchini sera en concert à Arles, ce sera le 17 décembre, et à l'église Saint-Jean de Montmartre à Paris, les 23 et 24 janvier, Lyon le 6 mars et Rennes le 12 avril. Et la prise de son ce soir était assurée par les toujours urbains, eux, Fabrice Desmaz et Julien Dumont. Merci beaucoup d'être passé par le Nouveau Rendez-vous.
Et merci à nos invités, merci François Beaune. Je rappelle que la BD documentaire Dans ma Zup est parue aux éditions Nouvelle Attila. David Farjon, la pièce, et c'est un sentiment qu'il faut déjà que nous combattions, je crois, va reprendre au Théâtre de Vanves en janvier du 13 au 15 avant de partir en tournée. Manon Haute, qui était au téléphone avec nous, de Cendres et de Braise, le film est toujours en salle et le livre est paru chez Anamosa. Et enfin, Emmanuel Davier, je signale que le livre Interclasse, éducation aux médias et à la citoyenneté sortira début janvier. C'est une coédition ESF et France Inter. Vous avez une date plus précise ?
Mais très précise, c'est le 3 janvier.
Ben voilà, on n'est jamais aussi bien servi que
début
par la
janvier.
Début janvier. Non mais le 3 c'est quand même mieux. Voilà, c'était le Énervé première partie. On se retrouve dans 15 minutes pour le Énervé la suite France Inter+. Mais demain, dans le Énervé...
Ground control to Major Tom.
Vous toussez sur David Bowie, mais...
Je sais pas qui c'est, David
Ah
qui
oui, David Bowie demain.
Ah,
parfait.
Génial. En live?
Non, ben non, en live, il va y avoir une contre-programmation et ce sera quoi?
On a rendez-vous avec la voix de la grande Sophie juste avant son Olympia.
Le NRV, c'est Marion Lelay à la réalisation, programmation, préparation, Virginie Rouzic, Clémence Diligent et mon Benoît Lagan.
Rendez-vous.